Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission en extérieur. Et quand on dit extérieur, on ne se moque pas de vous. Nous avons posé notre studio mobile au centre universitaire de Tilly à l'occasion de cette dernière journée de la fête de la science. Je disais, on est dehors, je vois que vous grelottez, Vincente.
Il y a un petit vent frais, c'est vrai. Voilà. Petit air.
Un petit vent frais, effectivement, mais qui nous fera pas de mal, qui aérera nos cerveaux, parce qu'aujourd'hui, on aura besoin d'être aéré. C'est la fête de la science et nous allons discuter science durant toute l'heure et demie qu'il y a devant nous. L'occasion d'aborder tout un tas d'éléments, tout un tas de questionnements. Vous aviez vous-même des questionnements, Vincent, me semble-t-il.
Quelques questionnements que je réserve pour nos invités tout à l'heure.
Ah, vous les réservez pour les invités, on n'y aura pas droit en avant-première.
Ah non.
Non, c'est comme ça, ce sera en direct en live, vous avez bien raison. Nous aurons l'occasion de parler escape game, programmation, trois dimensions, laboratoire, mesures, microbes, bactéries, j'en passe et des meilleurs bien entendu. Mais ça, c'est dans l'heure qui va s'ouvrir devant nous.
Alors pour Radio Propulsé, cette émission, on retrouve JC, on va retrouver Timothée qui va nous chercher nos invités, ainsi que Thomas à la technique.
Exactement, et vous-même, Vincente, qui animerait cette émission.
La fête de la science 2018 vous invite du 12 au 14 octobre à venir découvrir les villages d'Evreux, d'Elbeuf et de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Et cette année, on va parler d'idées reçues.
Au programme, des démonstrations, des ateliers de manipulation, des expériences à réaliser, mais aussi des rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, des conférences et des débats.
Pour les plus jeunes ou les plus anciens, rejoignez-nous dans les villages de la science d'Evreux, d'Elbeuf et de Saint-Étienne-du-Rouvray du 12 au 14 octobre. Entrée gratuite.
Plus d'infos sur ecoscience-normandie.fr.
Et nous sommes en direct, en live et en public de cette fête de la science sur l'université Tilly. Bien entendu, vous pouvez nous rejoindre, on vous y encourage fortement pour venir manipuler, parce que la science, c'est pas juste des explications, c'est aussi de la manipulation, c'est de la mise en pratique, de la mise en situation et de la découverte. Et puis on le rappellera jamais assez, l'entrée est gratuite. Et c'est quand c'est gratuit, Vincente ?
C'est dans nos prix.
Exactement. Nous recevons justement, en parlant de manipulation, d'expérimentation, Bruno Martin du réseau Canopée. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors le réseau Canopée est un réseau affilié à l'éducation nationale qui propose tout un tas d'expérimentations aussi bien littéraires que scientifiques. En quelques mots, peut-être vous serez mieux placé pour présenter ce réseau Canopée justement.
Oui, ben, moi je travaille dans l'atelier de Canopée Évreux et effectivement on est sous tutelle de l'éducation nationale pour la publication de ressources, on prête essentiellement des ressources pédagogiques, mais aussi de plus en plus du matériel numérique. Et on est amené à former et à préparer des animations pour les classes.
Alors, votre public cible, ce sont les enseignants à la base, mais vous n'êtes pas contre rencontrer directement les élèves ou les enfants en fonction de...
J'ai moi-même été enseignant 20 ans, donc ce type d'expérience de la fête de la science, c'est toujours pour nous une opportunité de nous replonger au milieu de la jeunesse pour proposer des choses qu'on expérimente. On est un petit peu un laboratoire pédagogique à Canopée, donc on phosphore, on a des outils, on est très numérique, on essaye de mettre ça en place, mais on se dit, bon, qu'est-ce que ça donne avec les jeunes? Et on était très content d'être invité. Depuis des années, on l'est, mais une fois de plus, ici, à la fête de la science. Oui.
Alors moi, je voulais revenir un instant sur ce que vous proposiez jeudi et vendredi en particulier, parce qu'on a croisé plein d'enfants. Nous étions également sur le site, on les a questionnés. Alors, il y a un truc qui a cartonné, on est obligé de le dire, c'est le escape game que vous proposiez sur le site.
Oui, c'était une nouveauté.
Fête de la science.
Ouais.
Vous pouvez nous en parler un petit peu, c'était quoi, le comment, le pourquoi?
Alors, le pourquoi,
et puis l'ambiance
comment.
Qu'il y avait avec.
Alors l'ambiance qu'il y avait avec, alors ça va être long. Alors d'abord le pourquoi, le comment, c'est simplement qu'en ce moment, vous le savez, il y a un goût pour en famille, pour les escape games, pour les défis d'évasion. Il y a un grand retour du jeu de société et il se trouve qu'il y a des pratiques pédagogiques en classe qui se développent. Il y a des tas de professeurs qui se disent, mais si je pouvais un petit peu lier les apprentissages à ces techniques ludiques très très motivantes. Donc nous on s'est dit, on avait déjà eu des petites animations l'an dernier avec des enseignants, on s'est dit, et si on se servait de la fête de la science pour faire un terrain de jeu, la MED, la maison de l'enfance, nous a dit, on vous propose, si vous voulez, l'amphithéâtre. Donc on est formidable, l'an dernier on était dans une salle plus petite, on avait des animations, là vous avez l'amphithéâtre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un amphithéâtre? On avait cette idée de faire des jeux d'évasion, des rallyes, on s'est retrouvé là. Donc on a proposé un escape game, défi d'évasion pour cycle 2, cycle 3.
Et on était... Alors cycle 2, cycle 3,
excusez-moi,
pour,
oui.
Pour les non-enseignants.
Alors cycle 2, cycle 3, bon, c'est des enfants qui ont de 7 ans. On avait les plus jeunes devaient avoir 7 ans jusqu'à 10 ans à peu près. Et on a accueilli des classes jeudi, vendredi, en tout 12 classes, pour leur proposer un défi d'évasion qui s'appelait Retour sur Terre. Alors ça a eu beaucoup de succès, il y avait une part de mise en scène, on les a fait imaginer qu'il y avait un problème là-haut dans la station de l'ISS et qu'ils avaient besoin d'une équipe de petits chercheurs, de petits férus en sciences pour redémarrer la machine là-haut. Et pour ça, il fallait aller à la recherche d'indices qu'on avait cachés dans l'amphithéâtre. On avait deux groupes en parallèle parce qu'on accueillait la classe complète. Il y avait deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. Tout le monde cherchant d'abord, puis regroupant les indices. Et dans le principe de l'escape game, sans qu'on intervienne trop, qu'ils essayent de mettre les indices. Alors il y avait des choses avec la manipulation de robots, il y avait des choses un peu en mathématiques, des pesées de liquide. On avait mis des petites énigmes à caractère scientifique. Et alors pourquoi ça a bien marché? Bon, il y avait cet aspect défi et il y a la mise en scène pour laquelle les jeunes sont à fond, faut le dire. Musique, petit fumigène, mais en respect des normes de sécurité, je vous rassure, on n'a pas eu de soucis techniques pendant cet escape game, ça s'est très bien passé. Et puis une mise en scène avec de la vidéo, beaucoup, ce qui fait que chaque équipe, ça se termine bien à chaque fois. Ils arrivent à faire démarrer la machine et le retour sur Terre est programmé. Mais c'est vrai que c'était un vrai terrain de jeu pour nous aussi, d'étayer tout ça. On est très contents de ce qui s'est passé pendant le jeudi et vendredi. Ouais.
Puis il y a une désacralisation scientifique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en s'amusant. C'est même plutôt amusant de manipuler la science. Enfin, y a cette notion-là aussi qui est importante, que la science ne soit pas forcément un professeur en blouse blanche qui vient nous expliquer comment fonctionnent les choses.
Exactement, il y avait clairement une dimension ludique affichée. Les enfants s'en sont emparés. Puis pour nous, c'était très sympa de vivre ça avec eux. Et puis il y avait l'idée aussi de s'amuser. Et vraiment de faire ça ensemble dans l'escape game. Si vous en avez fait, vous savez, hein, on fait jamais un escape game à 30. Quand on fait un escape game là, on devait gérer nous cette contrainte du nombre, mais l'idée que fallait qu'ils travaillent ensemble, parce qu'il y a des énigmes clairement qui étaient un petit peu difficiles. Quand les uns avaient fini, ils allaient aider les autres, et il y avait cette espèce de tempo là qu'on connaît dans les escape games, alors qu'il les stressait tellement à un moment qu'il a fallu qu'on cache le compte à rebours, parce que les petits c'était au secours quoi, et puis on a eu la question avec les plus jeunes, mais vraiment la station, on va avoir un problème si on n'arrive pas à trouver le code, on va vraiment pas retourner sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe là au juste? Et donc on est alors avec des petits clins d'œil, et puis il y en avait qui dit mais non, c'est pour de faux, mais on le fait quand même, hein, il faut absolument qu'elle redémarre cette station. Et donc ça a été un moment sympa.
Bah, c'est sympa quand le jeu prend le dessus tout en découvrant. Alors hier et aujourd'hui, on est sur une autre formule de l'espace Canopé. Et il y a notamment Vinci donc qui a testé ce qui se passait sur l'espace Canopé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Vinci? Qu'avez-vous découvert sur cet espace et du coup à quoi ça servait?
Alors, je suis restée exactement à l'atelier du Canopé. Donc, ça se passe avec des tablettes. Il y a des petites fiches avec un code et un numéro, c'est ça? Et quand on met la tablette dessus, on a parlé, donc là c'était des cathédrales, des monuments historiques, où on la voyait en 3D, c'est-à-dire qu'on pouvait bouger la tablette, tourner autour de l'étiquette et voir la cathédrale en 3D devant nous.
Ouais, c'est le principe de la réalité augmentée, hein. On en a pas mal ici sur la fête de la science, des exemples. Nous, notre dada, entre guillemets, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça en classe, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue culturel et scientifique. Donc on avait des démos de réalité augmentée, et là oui, vous faites référence à une application qui a été faite par un best-seller national, hein, cette application-là, et c'est un professeur de Rouen qui a fait ça, monsieur Chardine, et il a développé ça pour la communauté libre. Donc on peut le faire en famille, on peut le faire en classe, et ça permet de voir effectivement des cathédrales, églises, alors on en visite une, on visite celle d'Evreux, puis après on se dit mais si j'en voyais d'autres, et on les découvre à travers les livres, et là avec des objets en trois dimensions on a cet accès à des détails. Donc, réalité augmentée, c'est assez sympa.
Et on avait aussi un livre, donc c'était une BD, et la BD devenait interactive grâce à la tablette, c'est-à-dire qu'on mettait un casque, on entendait le personnage principal nous parler et on découvrait le livre grâce à ça. Alors c'est un moyen très ludique de pédagogique de découvrir un livre autrement que la façon normale de lire, d'ouvrir le livre.
Oui, alors nous on est très libre, hein. Réseau Canopé, on est un éditeur, donc on a plein de bouquins, on a des bouquins, mais on a aussi cette interrogation entre le numérique et lecture. Pour nous ça ne s'oppose pas, il faut trouver des passerelles, il faut trouver des manières de... la génération, on la connaît, elle est née avec la technologie, ça va l'accompagner toute leur vie, raconter des histoires, découvrir des aventures, ça reste important, le numérique peut les y amener, et là c'est une manière effectivement de faire du livre animé. On avait l'idée, vous êtes le héros dans les années 80, qui était aussi une autre manière de rentrer dans les livres d'une façon un peu ludique. Là, avec la réalité augmentée, on en a une nouvelle. Oui, et ça, n'importe qui avec une tablette peut le faire. Et nous, c'est ce qu'on fait faire aussi avec les gens qu'on reçoit à Réseau Canopé. C'est-à-dire qu'on montre et puis on fait avec. Parce qu'on veut vraiment transmettre ces techniques-là pour que ce soit plus démocratique et plus familial. Parce qu'on est persuadé qu'il ne faut pas, dans le numérique, être que consommateur, mais il faut créer, il faut faire les choses avec ses enfants. Et ça, c'est des applications sympas.
Puis j'imagine que ça doit aussi parfois être des techniques de contournement pour l'accès à la lecture ou des choses comme ça. Il y a des fameuses pédagogies de contournement ou des.
Le biais éducatif. Oui, c'est vrai que c'est le cas. La radio en est un aussi et c'en est un. Et alors en particulier là, je pense aux élèves avec des difficultés d'apprentissage. Cette réalité augmentée, Monsieur Chardine a développé une application, vous savez, qui permet pour un élève disque, mais on veut qu'il suive la lecture d'un texte. Il a cette tablette qui peut l'aider en fonction de ses besoins à révéler à l'audio le texte. Donc ça peut l'aider à entrer aussi dans la lecture. Donc il y a des vrais enjeux avec cette réalité augmentée. Mais oui, c'est toujours un biais éducatif pour revenir aux apprentissages parce que ça reste notre corps de métier.
L'apprentissage, et puis là, en l'occurrence, avec le réseau Canopé sur le site de la Fête de la Science, le côté très ludique qui tient l'ensemble, finalement, de tous ces apports pédagogiques.
Oui, l'entrée par le jeu, mais le jeu et les apprentissages, ça n'a jamais été irréconciliable. Là, il y a ce goût du jeu qui est là, et pas que du jeu numérique, hein, d'ailleurs. Et nous, on est persuadés que c'est une des entrées possibles pour aller vers la science, pour aller vers la culture, pour aller vers la littérature. Et c'est un de nos rôles de faire les passeurs entre l'un et l'autre. Mais oui, le ludique, je suis totalement d'accord, c'est quelque chose qu'on revendique dans le réseau Canopé.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Bruno Martin. Ben,
merci à vous, surtout.
Du réseau Canopé, d'avoir répondu à nos interrogations.
Oui, allez, merci. Au revoir.
Merci, Bruno.
Monsieur Jean Valjean, je vous propose que nous partions en musique, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. C'est vous qui décidez, oui. Bah, on n'est pas pressé non plus. La musique partira.
Like by the love.
De Colin avec le titre Bottle on the Sea. Colin, que nous aurons l'occasion de recroiser sur notre antenne cette année, car il fait partie des projets sélectionnés sur les résidences de la Gare aux Musiques où nous étions hier et avant-hier. Et puis, on y serait également l'année prochaine.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Et nous poursuivons les rencontres et les échanges à l'occasion de la fête de la science. Nous sommes sur le village d'Évreux, sur l'université Tilly. On vous invite à nous rejoindre, bien entendu. Hein, c'est toujours gratuit, c'est toujours dans vos prix, Vinci. Hein, c'est ça ? Exactement. Donc on vous invite à nous y rejoindre pour manipuler, expérimenter, découvrir. Et justement, nous avons autour de la table Élise, Bérénice, Parvin et Thomas qui animent l'expérience. Alors forcément, avec un nom comme ça, nous voulions en savoir plus. Élise, qu'est-ce que l'expérimentarium qui est porté par Science Action aujourd'hui sur ce village des sciences?
Tout à fait. Alors, c'est porté par Science Action régionalement en Normandie, mais c'est un programme qui existe au niveau national. Donc, il y a d'autres régions de France qui possèdent ce programme. Donc, l'expérimentarium, c'est un programme qui a été créé en 2001. Et en fait, le principe, c'est assez simple, c'est faire se rencontrer des chercheurs et des gens. Donc c'est vraiment très très simple.
Des univers qui paraissent complètement éloignés à l'origine. On a cette image, alors là pour le coup en plateau c'est pas cette image que ça renvoie forcément, mais on pourrait avoir un peu dans l'inconscient cette image des chercheurs, des gens inaccessibles qui d'ailleurs quand ils parleraient nous ne comprendrions rien parce qu'ils sont bien au-delà de nos compétences.
On a même des représentations physiques du chercheur qui est un homme d'un certain âge, blanc, avec une blouse qui
et
manipule
plein de stylos dans la poche.
Voilà, en général on pense à ça. En fait nous les jeunes chercheurs, donc on travaille surtout avec des jeunes chercheurs qui donc ça peut être tout type de discipline. C'est que la science, on pense à de la biologie, de la physique, mais il y a aussi de la linguistique, de l'histoire, de la philosophie, donc tout un tas de choses. Et ces chercheurs, on leur apprend, donc c'est le cadre du programme expérimental, on leur apprend à parler de leur recherche de manière accessible et on les fait rencontrer du public. Alors pas sous forme de conférences, pas sous forme de cours, mais sous une forme plus décomplexée, de petits ateliers de discussion avec des formats qu'on essaye toujours un peu plus originaux pour attirer les gens.
Alors l'expérimentarium, c'est quoi le concept? J'ai vu que vous étiez installé dehors, il y a des boîtes, c'est assez mystérieux en fait, hein. Quand on arrive de l'extérieur, on n'a aucune idée de savoir ce qui va se passer.
Alors on essaie toujours de se renouveler, on a fait différentes tentatives, des rencontres dans le noir par exemple, ou des rencontres dans la rue, ce genre de choses. Et là, il y a un dispositif qu'on a créé cette année qui s'appelle le Toucher ma recherche, c'est gagné. Donc les chercheurs ont caché d'étranges objets dans des boîtes, et l'idée c'est qu'on touche à l'aveugle, on essaie de deviner ce que sont les objets, et par conclusion ce sur quoi travaillent les chercheurs. C'est un prétexte en fait à la discussion, une petite amorce qui permet d'échanger avec eux de manière assez simple.
Alors là, nous n'avons pas les boîtes en plateau, mais j'aimerais bien du coup explorer un petit peu les domaines de recherche des uns et des autres et comment c'est abordé. Bérénice, Parvin ou Thomas, qui souhaite commencer, qu'y a-t-il dans votre boîte à vous ? Thomas, peut-être, voilà, vous êtes le premier, vous êtes emparé du micro.
Alors, dans ma boîte, il y a une radio, un petit radio-réveil, et puis il y a un dictionnaire.
Alors, quel est l'objet de votre recherche ?
Bien, je vous pose la question.
Alors, moi, j'ai la réponse, hein, donc je ne vais pas la donner, c'est trop simple. Parce
alors,
que,
ça va
alors
pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, Vinci, vous, une radio, un dictionnaire, ça vous évoque quoi ? Si vous mettiez la main dans cette boîte, ça vous dirait quoi ?
Alors, j'ai entendu aussi tout à l'heure la réponse. Donc,
Vous pouviez faire
c'est
semblant
pas,
et tomber juste dès le début.
J'aurais pu faire semblant, mais...
Bon, le secret était vanté. Alors, je travaille sur la langue, sur le langage humain, et je fais donc de la linguistique. Voilà.
Alors la linguistique, on se dit, bon, bah, c'est chercher les racines grecques, romaines ou je ne sais quoi, des mots, les décortiquer pour savoir comment ils ont été fabriqués, mais pas forcément.
Ça peut tout à fait être ça, oui. On peut travailler sur l'histoire des langues ou de la langue. Moi, je travaille plus particulièrement sur la langue contemporaine et en fait sur le français. Et je travaille sur le sens des mots, plus spécifiquement sur le fait que les mots ont généralement plusieurs sens. Et c'est ça que j'explore en fait.
Alors, quand vous parlez des mots qui ont plusieurs sens, alors on imagine bien ce grand classique du vers, par exemple, qui se décline en fonction de l'orthographe sur diverses définitions. On est là-dedans ou c'est beaucoup plus complexe ?
Non, c'est pas plus complexe, c'est juste que c'est pas ça, parce qu'en fait, le vers de terre et le vers dans lequel on boit, ça s'écrit pas de la même façon, donc on considère en linguistique que c'est pas le même signe, c'est-à-dire que c'est
d'accord.
pas le même mot. Donc moi je m'intéresse vraiment à des mots qui s'écrivent, qui se prononcent, qui sont exactement le même et qui viennent s'éclater en sens différent. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le mot cœur, C-O-E dans l'O-U-R, qui a beaucoup de sens en français et d'ailleurs beaucoup de sens dans d'autres langues du monde. Voilà.
Et alors comment est-ce qu'on fait des recherches ? Alors autant quand on recherche un médicament, ça c'est assez clair dans mon esprit, même si je suis sûrement à côté une fois de plus, mais en tout cas j'ai une représentation assez claire de ce que c'est rechercher, je sais pas moi, un vaccin, rechercher... Mais alors une recherche en linguistique, comment elle se fait finalement ? On est loin des éprouvettes et de l'image que je peux avoir.
Alors c'est sûr qu'on n'a pas d'éprouvettes et que finalement on peut travailler dans une tenue assez normale, assez classique. Alors moi si je prends la radio, c'est précisément parce que comme objet de départ, c'est parce que précisément je travaille sur les énoncés, sur la langue telle qu'elle s'énonce aujourd'hui, et donc tout énoncé, que je le trouve à l'écrit dans un roman ou à l'oral à la radio par exemple, m'intéresse. Donc quand j'entends un énoncé dans lequel il y a par exemple le mot cœur et que je travaille sur le mot cœur, des fois ça ne m'intéresse pas parce que j'avais déjà pensé à ça et que ça n'apporte rien, mais des fois c'est un emploi auquel je n'avais pas pensé et qui va venir nourrir ma réflexion dans la recherche, et je vais donc aller sur internet, retrouver le petit énoncé, le réintégrer dans mon travail et puis en faire éventuellement quelque chose. Voilà.
Très brutalement et frontalement, à quoi sert ce type de recherche ? Comment est-ce qu'on en trouve une action pratique ? Comme pour le vaccin, une fois de plus, c'est clair pour moi quand l'application pratique. Sur le linguistique, quelle est l'application pratique ?
Alors ça, c'est un grand débat. Alors je réponds généralement en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, c'est que par provocation, je dis souvent, et je suis pas sûr qu'il faille forcément que la recherche serve à quelque chose au sens pratique du terme. Hein.
Nous, ça nous va bien comme réponse, hein, clairement. Hein.
Donc bon, ça j'en suis pas sûr, même si ça dépend ce qu'on a mis derrière servir. Hein. Moi, je peux répondre tout simplement, ça sert à comprendre la manière dont fonctionne une langue, et je trouve que c'est déjà très beau, tout simplement. Hein. Alors si on veut essayer de quand même convaincre des gens que ça sert à quelque chose, parce que des fois on a déjà très pragmatique en face de nous, et après tout c'est défendable, on peut défendre l'idée que quand on travaille par exemple comme moi en sémantique, ça sert pour améliorer l'enseignement des langues par exemple, pour améliorer l'usage des dictionnaires, et ça peut même avoir des applications, alors là ça fait très bien quand on veut être très applicatif dans l'informatique, dans la traduction des langues, des choses comme ça, voilà.
Très bien, c'est très clair pour moi, ça y est, je vois bien,
il
n'y a pas de souci. On va passer aux autres boîtes, si vous le voulez bien. Bérénice, Parvin, laquelle se lance. Voilà, Bérénice, alors vous, dans votre boîte, que peut-on deviner ?
Alors moi, ça n'a rien à voir avec Thomas. Dans ma boîte, j'y ai disposé des croquettes pour rongeurs. Et d'autre part, j'ai disposé des valves cardiaques, notamment une valve aortique.
Vinci, ça vous fait penser à quoi? Je refais un peu le même format parce que là, je suis bien embêté. Hein, je n'y arriverai pas. Je vous en prie.
Valve aortique et des croquettes pour rongeurs.
Rongeurs. Je vois déjà quelque chose en lien avec le corps humain.
Oui, exactement.
Et c'est la croquette qui vous met sur la voie?
C'est ça. Le corps humain avec, je sais pas, en lien avec les animaux, un corps étranger ou quelque chose d'animal qui peut se greffer ou autre au corps humain.
Plus ou moins. Donc en fait, moi j'étudie une maladie qui va donc toucher la valve aortique et j'étudie cette maladie donc chez l'animal. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire le lien entre les deux.
Alors du coup, comment est-ce qu'on aborde, alors là pour coup on est sur une question très médicale, oui. Sur une recherche peut-être d'apparence plus claire que linguistique éventuellement, excusez-moi hein, Thomas, hein, c'est... mais en tout cas qui est plus entre guillemets dans ce qu'on pourrait appeler une recherche que nous intégrons, comment on en parle du coup à un public, parce que là on s'adresse à un public de personnes qui n'ont jamais fait de recherche, qui sont peut-être très mauvais même en médical ou en compréhension même du corps humain, quoi, en anatomie.
Bah justement, je commence par expliquer ce qui est le cœur, tout simplement, et ensuite je descends plus petit à petit en fait dans l'anatomie. Donc je vais vraiment expliquer ce que c'est le cœur, ce que c'est la valve, à quoi ça sert. Puis ensuite, à partir de ce moment-là, une fois que les choses sont bien comprises, je vais vraiment aborder ma thématique de recherche, expliquer ce qu'est la pathologie en elle-même et comment je fais donc pour l'étudier chez l'animal.
Quand on étudie ce genre de choses, j'imagine que vous n'êtes pas la seule à travailler sur ce type d'études. Ça aurait pu valoir pour Thomas aussi, mais en l'occurrence, on renouvelle les questions. En tout cas, Bérénice, vous n'êtes pas la seule à travailler, j'imagine, sur ce type de recherche. Comment ça se passe, l'interaction, ou y en a-t-il déjà de l'interaction entre les personnes qui cherchent? Est-ce qu'il y a une organisation de la recherche? Comment ça se passe?
Alors, c'est une très bonne question.
Ça, c'est quand on est embêté avec la question, on commence toujours comme ça. Non, hein, on a l'habitude.
C'est une très, très bonne question. Déjà, on interagit, donc on est plusieurs, forcément, au sein du laboratoire à travailler sur la même thématique. Il faut savoir que moi, ma thématique, d'ailleurs, c'est un peu particulier parce que c'est un gros projet au sein de toute la Normandie. Donc déjà, on interagit entre chercheurs, pardon, tous les trimestres, entre nous, on échange. Et il faut savoir que nos travaux font aussi l'objet de publications à l'international et c'est comme ça que les chercheurs communiquent également entre eux, font des collaborations, etc.
Du coup, j'imagine que vous-même, vous êtes à l'affût des publications sur le sujet ou de sujets connectés,
oui, bien
pour pouvoir voilà, avancer sur ces questionnements-là.
Oui, exactement.
Concrètement, ça se passe comment le boulot d'une chercheuse dans ce domaine-là?
C'est pas facile tous les jours. Non, mais après, l'avantage de notre métier, on fait ce qu'on veut, on cherche un peu ce qu'on veut, on échange tout le temps et voilà, c'est super.
D'accord, sur est-ce qu'il y a l'objet au bout d'un moment de se dire, pour revenir un peu sur la question de l'application, elle nous paraît plus évidente, hein, bien entendu, quand on travaille sur de la maladie spécifique, de pouvoir trouver des réponses, on voit bien l'application, hein, c'est pour le soin, dans ces choses-là. Une fois que les chercheurs ont cherché, parfois même ont trouvé des choses, j'imagine qu'au bout d'un moment, il y a une centralisation des infos, il y a une validation de la recherche, enfin, comment ça se passe? Vous n'en savez peut-être rien.
En fait, on a notre thématique, on cherche, et une fois qu'on a trouvé quelque chose, qu'on est arrivé à la fin de notre travail, on le publie, et après, voilà, les autres chercheurs, soit même nous-mêmes, hein, on va continuer de toujours aller plus loin. Et sinon, les autres vont aussi se servir de ces
travaux-là. C'est ça, le point de départ de votre propre recherche émane des recherches des autres.
C'est ça, c'est exactement
après
ça.
Avoir compilé tout ce que vous avez trouvé sur le sujet, bah, vous partez à l'étape d'après.
Exactement.
C'est ça. Et en espérant que celui d'après parte là où vous avez laissé le travail. Ça sous-entend que c'est jamais fini, mais dans la recherche, il y a un peu cette notion-là que ce soit jamais fini, non?
Il y a tellement de choses, surtout en santé, au final. Le corps humain est tellement bien fait au final, mais c'est tellement compliqué qu'il y a toujours quelque chose à chercher et surtout à trouver.
Très bien. Parvin, dans votre boîte, qu'y a-t-il ? Vous avez un micro rouge là devant vous. Hein. N'essayez pas forcément le micro de votre copine, il ne marche pas forcément mieux. Hein.
D'accord. Alors moi, dans ma boîte, il y a une paire de gants. Enfin, un gant. Et il y a aussi une présentation de l'œil. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie cornée de l'œil. Donc, je travaille à peu près dans le même domaine que Bérénice. Et...
Mais on va... Non, on va voir ce que ça évoque. Alors, elle ne travaille pas sur les effets du doigt dans l'œil. Hein. Quelqu'un a un problème de toute l'humanité. À mon avis, c'est pas ça. Hein.
Non,
moi, je partirais plus sur un domaine plus ophtalmologique, quelque chose dans le genre. Les yeux, les gants, grande chirurgie. Quelque chose plus comme dans ce genre-là.
Oui, bah, c'est une application en chirurgie, en ophtalmologie. Alors, moi, je suis chercheuse en biologie. Et en fait, je travaille sur la lyophilisation de la membrane amniotique pour une greffe derrière, dans les cas des ulcères cornéens. C'est une greffe au niveau de la cornée pour les personnes qui ont eu une brûlure au niveau de la cornée et dont la cornée est devenue opaque, parce que la cornée est transparente, et qui ne voit plus. Donc, on essaye de mettre en place une méthode de conservation de cette membrane amniotique qui est une partie du placenta pour pouvoir derrière l'utiliser, le chirurgien puisse l'utiliser directement au niveau de l'œil et que la personne retrouve la vue derrière.
Quelle drôle d'idée de partir du liquide amniotique pour soigner une cornée.
Alors,
d'où ça vient ? Enfin, là, au bout d'un moment, vous avez sûrement lu d'autres publications. C'est peut-être pas vous qui êtes parti directement bien en tête sur cette idée. J'imagine que d'autres ont publié, comme on l'expliquait il y a deux secondes avec Bérénice.
Oui, voilà.
Ça part d'où, cette histoire ?
En fait, c'est pas le liquide, c'est vraiment la membrane amniotique qui est une partie du placenta. Donc, c'est vraiment une membrane. En fait, elle avait déjà été utilisée auparavant, enfin au début, au niveau de la peau, pour les brûlures de la peau. Et comme les cellules de la peau, elles ressemblent beaucoup aux cellules de la cornée. Donc à un moment donné, je ne sais pas qui, mais une personne a eu l'idée de l'utiliser pour les brûlures de la cornée, tout simplement. Et donc les premières publications sont vraiment au niveau de la peau. Et derrière, depuis 1940, où il y a eu la première greffe en France de la membrane amniotique, si je ne me trompe pas de la date, au niveau de la cornée, on a eu plein de publications derrière concernant cette greffe. Et sachant qu'actuellement, la greffe, elle se fait avec des membranes amniotiques congelées et que nous, on essaie de mettre en place la lyophilisation parce que la congélation a besoin des gros congélateurs à moins 80. Donc nous, on essaie de mettre en place des membranes amniotiques qu'on pourra garder à température ambiante, sachant qu'on travaille avec Ophtalmos Sans Frontières pour pouvoir derrière envoyer aussi ces membranes à d'autres pays qui n'ont pas les moyens de garder.
Ah oui, et puis il y a la question du transport, j'imagine, à moins 80,
oui,
qui
voilà.
Est assez compliqué. Hein.
Voilà.
Sur vos recherches, on est là sur de la recherche théorique, ça veut dire de la recherche sur un ordinateur avec des valeurs qu'on va multiplier, diviser ou je ne sais quoi, sûrement c'est bien plus compliqué, mais en tout cas voilà. Où est-ce qu'on est vraiment sur de la manipulation directement avec la membrane qu'on vient découper, qu'on vient poser sur un truc. Enfin, comment se passe la recherche du coup ? J'ai besoin de savoir moi, si elle reste théorique, enfin théorique avec de la valeur et des calculs, ou si au bout d'un moment elle est clairement pratique et on observe la culture de cette membrane pendant 5 semaines, 6 semaines, ou comment ça se passe ? On met un peu de sel pour assécher, ou je sais pas. Non, mais...
Alors moi c'est vraiment pratique. C'est vraiment, je travaille vraiment en laboratoire.
En blouse avec des gants.
En blouse avec des gants, vraiment. En fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'on va demander à la maman si elle veut bien donner son placenta après l'accouchement, après un accord. On va récupérer le placenta et on va venir le nettoyer. Derrière, on va donner nos différentes recettes de lyophilisation à une machine qui va lyophiliser. Et derrière, cette membrane lyophilisée, on la récupère. On va mettre des cellules de cornée dessus pour pouvoir voir lequel des placentas qu'on a lyophilisé avec telle recette va nous donner plus de cellules derrière, c'est-à-dire que c'est ce placenta-là qui a gardé plus de nutriments. Et aussi, on va faire des analyses protéomiques et des comparaisons entre les différentes recettes et aussi la membrane qui a été congelée, qui est la membrane de référence. Et derrière, on va venir analyser et faire les comparatives entre cela et au final, pouvoir garder la meilleure recette derrière qui nous permettra de garder la membrane.
Donc vous êtes vraiment dans la recherche avec les petites boîtes, les frigos, les choses comme ça,
voilà.
Les tests réguliers. Non, mais c'est la représentation qui nous paraît, grand public, la plus évidente de la recherche.
Et puis après...
un peu peut-être stéréotypée, mais en tout cas, c'est
Mais après, c'est derrière, il y a aussi, bien sûr, des analyses bioinformatiques derrière. Mais on a les deux côtés dans la recherche en biologie, surtout biologie appliquée.
tous les trois dans ce type de recherche. Alors le terme technique, vous êtes doctorant, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, donc en stade final des études pour obtenir le statut de docteur, hein, c'est ça l'idée. Hein. Toutes ces recherches sont suivies par quelqu'un, par une structure, par comment ça se passe un petit peu l'organisation de vos recherches?
Alors, on est tous encadrés par un directeur de thèse qui va nous aider derrière pour amener notre recherche. Mais vraiment, le projet pour un doctorant, c'est de pouvoir faire la plus grande partie de sa recherche elle-même et pouvoir vraiment avancer un projet elle-même. Après, je...
Bérénice n'a pas pu s'ajouter.
Voilà.
Globalement, à la fin du cycle, je crois que Thomas, c'est bientôt la fin du...
Dans 12 jours.
Dans 12 jours. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a un côté, on met des bâtons sur le mur. Hein, quand on
j'ai dit 13 tout à l'heure à mes collègues, mais c'est 12 en fait. Hein. C'est 12.
Voilà, donc dans 12 jours, c'est le soutien de la thèse, c'est ça?
Enfin, on appelle ça soutenir sa thèse. Ouais.
Soutenir sa thèse. Est-ce qu'il y a une publication systématique des travaux qui sera réalisée pour les uns pour les autres sur l'organisation de votre travail?
Alors, on publie en amont, en fait, de son travail. C'est-à-dire que ça fait des étapes aussi dans la recherche. Bon, ça dépend un peu selon dans quel type de science on est, mais moi, par exemple, j'ai publié quelques articles qui ont constitué un peu des étapes dans ma recherche. Et après, il y a certains chercheurs, oui, qui publient leur thèse, en fait. Alors, c'est souvent réécrit un petit peu, mais oui, on peut publier sa thèse, éventuellement, oui.
Des publications aussi en cours pour Bérénice et Parvin?
Bah, nous, dans notre domaine aussi, il y a besoin de faire une publication pour pouvoir soutenir sa thèse. Donc, c'est en cours de rédaction, mais en cours.
Très bien, bah merci beaucoup à vous d'être passés par nos micros, Élise, Bérénice, Parvin et Thomas. On va vous laisser rejoindre votre expérimentarium. On en a bien parlé maintenant. Voilà, les boîtes étaient laissées à l'abandon. Non, elles étaient en pause. Elles étaient en pause, les boîtes.
Les boîtes étaient en pause.
Elles vont repartir en action. Bah, rapprochez-vous de l'expérimentarium, histoire de découvrir un petit peu tout ça. Merci beaucoup à vous pour cet échange en micro. Jean Valjean, je vous propose que nous partions sur une courte pause musicale, le temps d'accueillir notre prochain invité.
Hey kid, how you boys doing?
Hey, keep chilling. Tasty burger. Vincent, you ever had a big
Kahuna burger? One bite? They're real tasty. Well, if you like burgers, give them a try sometime. Me? I can't usually get them because my girlfriend's a vegetarian, which pretty much makes me a vegetarian.
Around You, avec le titre Marcel, Marcellis même sûrement. Ça dépendra de l'écriture de notre ami Pignon. Nous sommes toujours en direct en live et en public de la Fête de la Science.
Principe actif 102.4 FM. Principe actif 102.4 FM. Principe actif 102.4 principe actif.
Et nous continuons nos échanges et nos discussions avec les personnes qui sont sur cette fête de la science. Et nous sommes avec Sandra du laboratoire Bio Galénis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous, votre spécialité, c'est le dosage des conservateurs dans les produits cosmétiques, si je ne dis pas de bêtises.
C'est exactement ça.
Alors, j'ai noté mot pour mot ce que vous m'aviez dit, parce qu'on a besoin d'éclaircir qu'est-ce que le dosage des conservateurs dans les produits cosmétiques et comment on en fait sa spécialité.
Ah.
Parce que ça veut dire quoi, en fait, finalement, le dosage des conservateurs dans les produits cosmétiques?
Eh bien, dans les produits cosmétiques, les laboratoires qui les fabriquent rajoutent des conservateurs pour éviter la prolifération des bactéries et des moisissures à l'intérieur quand on s'en sert.
Un peu comme dans notre alimentation, dans les trucs qu'on va acheter en barquette ou dans les yaourts ou autre chose, il y a des conservateurs. C'est le même esprit, c'est ça?
C'est exactement la même chose. Il faut juste que les bactéries ne poussent pas pendant le temps de l'utilisation. Donc on a une date de péremption, en fait, des crèmes qui sont dans notre salle de bain. Et ce qu'il faut évidemment pas, qu'il y ait plein de bactéries qui se prolifèrent à l'intérieur, parce que si vous étalez ça sur votre peau après, vous allez avoir des boutons. Donc c'est pas du tout le but.
C'est pas le but recherché, j'imagine, pour un produit qu'on va vendre après dans le commerce, quoi.
C'est ça. Donc les conservateurs sont souvent à des concentrations qui sont définies, qui sont légales,
c'est-à-dire réglementées.
Il y a des seuils à ne pas dépasser, qui peuvent différer d'un conservateur à l'autre, qui diffèrent également d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez vendre votre produit cosmétique en Chine, vous ne pouvez pas mettre les mêmes conservateurs que si vous le vendez en France. Donc c'est un espèce de challenge, en fait, pour les fabricants d'arriver à mettre les conservateurs qui vont correspondre à leur marché, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça, s'ils décident de vendre à l'international, va falloir qu'ils soient avec le même produit, raccord avec toutes les législations.
Ça, c'est impossible.
De tous les... Ah, ça, c'est impossible.
C'est impossible.
C'est-à-dire qu'un produit d'une gamme qu'on connaît bien, au hasard, on va rien nommer, mais un produit type, ne sera pas constitué de la même chose en France, en Italie et en Chine.
Alors, évidemment, ils essaient de faire un produit avec un nom de marque, le produit qu'ils vont vendre sous un nom, ça va être le même. Mais par contre, ils ne vont pas le vendre dans tous les pays. Ils ne peuvent pas le vendre en même temps au Japon et aux États-Unis. suivant les conservateurs qu'ils vont mettre à l'intérieur. Donc ils font deux gammes, ils font une gamme pour une gamme Chine et une gamme Europe par exemple.
Alors moi bêtement j'étais en train de me dire que finalement vous travaillez sur le dosage des conservateurs, mais j'aurais envie de dire presque naïvement, mais en fait le fabricant il sait combien il en met dedans, il a le produit conservateur qui l'intègre dans son produit de base qu'il veut vendre, et puis c'est réglé.
Voilà, c'est exactement ça, ils savent combien ils en ont mis, ce qu'il y a c'est que comme pour tout le monde, l'erreur est humaine. Et dans les fabrications, de temps en temps, y a un opérateur qui va oublier de mettre le conservateur, ou qui va le mettre deux fois, ou qui va oublier de faire la tare avec le pot dans lequel il va le verser. Ils vont en retrouver 10% de plus, c'est-à-dire le poids du bidon en plus ou en moins, suivant comment il s'y est pris. Donc, quand ils vendent leurs produits, ils doivent être certains qu'il y a la bonne quantité à l'intérieur. Surtout quand c'est réglementaire, et surtout quand, par exemple, il y a des conservateurs qui sont réglementés à 0,3%, ils en mettent 0,27% s'il y a un problème avec l'opérateur et qu'ils se retrouvent au-dessus de 0,3%, ils sont hors la loi.
Et donc ça, c'est vous qui vérifiez, contrôlez. Sur les produits, moi, je me pose des questions toutes bêtes. Hein, c'est concrètement, ça veut dire que vous recevez des échantillons de production, mettez en test, vous laissez vieillir, vous les bactérialisez.
Pas du tout.
Non.
On les reçoit. On reçoit des échantillons tous les jours de fabricants ou de marques. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui font fabriquer à l'étranger, par exemple, et qui nous envoient leurs échantillons quand ils les reçoivent. Il y a des fabricants qui font fabriquer en France, qui nous envoient toute leur fabrication, quel que soit leur façonnier. Et il y a des façonniers qui nous envoient tout ce qu'ils fabriquent, quel que soit leur client à eux. Voilà. Donc tous les jours, on reçoit entre 20 et 50 échantillons qu'on va doser. Alors on va doser les 30 ou 40 conservateurs qu'on sait doser. Voilà.
Alors du coup, ça se passe comment ? Je suis très curieux, mais ça se passe quoi ? Ça se passe dans un labo en blouse blanche, sur des longues paillasses, on prend des petits échantillons, on met des éprouvettes, on met des trucs dessus, on mesure. Enfin, comment ça se passe ?
Je suis très curieux.
Oui. Okay. Ah oui, je veux savoir comment ça se passe, que dans mon imaginaire, je sois plus à côté de la plaque, quoi.
Donc on va recevoir à peu près 40 grammes de produits dans un petit échantillon, genre flacon à pipi, vous voyez, le petit truc à bouchon rouge, là. On va faire un prélèvement de deux prises d'essai, de à peu près 1 gramme de chaque de produit, qu'on va mettre dans deux tubes différents. On va rajouter un liquide qui va permettre d'homogénéiser le produit. On va secouer ça pendant au moins 4-5 heures. Après, il y a des échantillons qui sont plus compliqués que d'autres à extraire, comme les anticernes, par exemple, qui sont très collant ou mascara, ou on va travailler sur des poudres. Dans ce cas-là, c'est facile, on ne fait jamais plus de 4 heures. Enfin, on adapte, hein, parce qu'on est un peu exigeant, on veut avoir la vraie quantité à l'intérieur. C'est pas parce qu'il y a écrit il faut secouer 4 heures qu'il faut secouer 4 heures. Il faut secouer jusqu'à ce qu'on ait extrait. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir le bon résultat à la fin. Donc une fois qu'on a secoué, on va centrifuger pour que ce soit un peu plus propre. On va filtrer pour que ça ne bouge pas nos matériels. Ensuite, on va diluer pour être dans la bonne gamme de concentration. Et puis, on va diluer pas avec la même chose, suivant le principe actif qu'on cherche, ou le conservateur qu'on cherche. Et ensuite, on va injecter ça dans différentes machines, donc soit de la chromatographie liquide avec une détection UV, soit dans une chromatographie gazeuse avec une détection par spectrométrie de masse. Ça
c'est
va hyper J'ai dit assez de mots
compliqués. Ouais, c'est ça, je me sens beaucoup plus malin tout de suite. Non, mais on suit bien quand même. Enfin, ça, on a bien compris le processus. Donc, mais c'est tout bête, mais c'est peut-être pour vous, ça paraît tellement anodin. Mais c'est vrai que pour nous, de se dire quel biais ça passe.
Il y a une des fêtes de la science où j'avais essayé d'expliquer ça, mais on tombe tout de suite dans des choses très très compliquées. Dès qu'on parle de molécules, en fait, comme le public ici à la fête de la science, c'est quand même beaucoup des enfants. Entre une cellule, une molécule, un ion, ils comprenaient pas trop la différence. Quand on parle de chromatographie pour les séparer, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, on essaie de s'adapter aussi au public.
Alors du coup, concrètement, comment vous faites pour découvrir votre métier aux enfants ? Comment ça se passe ?
On a un peu abandonné l'idée, en fait. On a fait un petit peu, hein, je vous ai pas tout dit. Il y a aussi une autre machine qu'on utilise, c'est la chromatographie liquide avec spectrométrie de masse.
J'étais en train de me dire que ça manquait dans le truc, ouais.
Donc la LC-MS-MS, et je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, j'avais essayé de montrer ça aux enfants, et je ne sais pas si vous avez déjà parlé de du rallye du petit chercheur, il y a une question qu'il faut poser. Et le temps que j'explique la question,
ils étaient repartis.
Quoi. J'étais obligée d'expliquer les 5 mots de ma question. Donc voilà. Donc on n'explique pas ça. C'est trop compliqué. Par contre, ils ont quand même beaucoup de curiosité. Donc ce qu'on fait, comme on a une culture scientifique qui est quand même assez large, on adapte et on s'adapte au thème de l'année.
Oui, il y a plein de manipulations sur votre espace. On a enregistré jeudi dans nos reportages le coup de l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède, ouais. Qui en fonction de si on est passé avant dans l'eau chaude ou avant dans l'eau froide, ben on
trompe nos sens en fait.
Voilà, c'est ça.
L'idée de cette année, c'était le ressenti, le tromper les sens et voilà. Donc on a travaillé un petit peu sur l'illusion d'optique et un petit peu sur le tromper le sens du toucher. Une petite révision des 5 sens, ça fait du bien à tout le monde, quel que soit l'âge des enfants, ça leur fait du bien.
Tout à fait. Ouais, non, c'est favoriser la curiosité, aller susciter aussi le questionnement.
Alors, la plupart des enfants que j'ai vu passer depuis 4 jours là, ne savent pas ce que c'est qu'un air, donc c'est très rigolo de les pincer.
Ah bah oui, c'est génial ça.
Voilà.
C'est scientifique, je te pince, mais c'est scientifique.
Entre le pouce et l'index, il y a une petite peau, et à l'intérieur de la petite peau, là en dessous, il y a un gros nerf. Et si on pince un petit peu fort, on le ressent tout de suite. Donc si les gens ils veulent essayer là...
Vous êtes sur le stand, ouais. Et vous pincez le nerf avec grand plaisir.
Je pince les nerfs de tous ceux qui veulent bien venir.
Eh bien ça vend du rêve, ça vend du rêve Sandra. Très bien, bah merci beaucoup d'avoir échangé avec nous sur toutes ces techniques. J'aurais envie de dire, avec vous aussi, nous coucherons moins bêtes ce soir. Voilà, merci beaucoup Sandra du labo Bio Galénis d'être passée par nos micros.
Je t'en prie, merci.
Monsieur Valjean, je vous propose que nous envoyions une courte pause musicale, cette fois courte, hein, parce qu'on cumule le retard, parce que on discute avec tout le monde, on échange, et puis on passe un bon moment. Mais il va falloir qu'on avance tout de même. Une courte pause musicale, monsieur Valjean, et on se retrouve juste après avec nos prochains invités.
Human nature.
So, que nous avons croisé également sur la guerre aux musiques ce week-end. C'est un des projets sélectionnés sur la résidence de la guerre aux musiques de Louviers. Voilà, ça se dit. Ouais, c'est très marqué guerre aux musiques, hein, cette programmation musicale. Et c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est de la bonne musique et puis c'est de la programmation locale. Ça fait jamais de mal. Vous êtes toujours en direct, en live et en public de la fête du village, de la fête de la science à Évreux.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
C'est une radio libre.
Oui, oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Je suis au courant.
Parfait.
Principe Actif, la radio associative de l'heure.
Et nous poursuivons les échanges et les rencontres. Et nous sommes avec Maximilien Xavier, doctorant en microbiologie. Alors ça, c'est un titre qui en jette, on va pas se mentir. Nous, grand public, qui ne comprenons pas bien forcément ce qu'est la microbiologie, voire même ce qu'est un doctorant. Et pour ne rien gâcher à la chose, vous êtes venu en blouse. Là, pour le coup, vous répondez très clairement à cette notion, à cette image de chercheur qu'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir un petit peu ce que c'est la microbiologie et ce qui fait votre quotidien?
Absolument. La microbiologie, qu'est-ce que c'est? C'est, de manière vulgaire, l'étude des micro-organismes. Les micro-organismes, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. C'est les choses qui sont invisibles à l'œil nu, qui est vivant et qui est constamment autour de nous.
Végétal ou microbien, enfin, alors, j'utilise peut-être des termes qui vont vous hérisser les cheveux, hein, mais...
Non, absolument, microbiologie, le sens large, c'est végétal, c'est humain, c'est bactéries, virus, champignons, c'est tout ça, tous vraiment ce qui correspond à ce qui est invisible à l'œil nu. Après, nous, on se spécialise sur les bactéries. C'est notre sujet de recherche, on est doctorant en microbiologie spécialisé sur les bactéries.
Alors quand on fait des recherches sur la microbiologie, j'ai cette image de microscope en permanence au bout des yeux, c'est des choses comme ça, non? C'est concrètement des cultures les boîtes
Pétri. Oui, les boîtes de Pétri, voilà, oui, surtout en microbiologie.
Ça, moi j'ai cette image-là, on est proche d'une réalité ou ça c'était le siècle dernier?
Non, il y a toujours de la microbiologie, en fait, on va dire de base, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer, l'humain veut toujours observer, donc comme c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'a très bien dit Xavier, en fait, on va utiliser plein d'outils différents pour essayer vraiment de se rendre compte vraiment de ce qui se passe visiblement, en fait. Donc on va utiliser des gros appareils comme des microscopes. Donc ici, on a ramené vraiment des petits microscopes, mais on a des gros, gros microscopes où on va pouvoir descendre vraiment à des centaines de nanos, de micromètres, vraiment au micromètre près, vraiment on va pouvoir observer le micro-monde et voir ce qui se passe réellement de visu. Mais après on va utiliser aussi différents appareils, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser aussi tout ce qui est protéines, ADN, biologie moléculaire, etc. Et là ça sera des expériences vraiment qui ne seront pas visibles et donc là il va falloir utiliser diverses expériences pour pouvoir révéler tout ça.
C'est aussi beaucoup de travail sur ordinateur du coup. Beaucoup de traitements sur ordinateur de données.
Alors, sur l'espace, là, aujourd'hui, sur le village des sciences, notamment, on a eu l'occasion avec Vinci de mettre notre œil ou nos yeux, pour les plus malins, voilà, on n'arrive pas forcément à mettre les deux tout le temps, dans les microscopes. Et là, vous nous proposiez d'observer, c'était quoi, des bactéries, des choses comme ça, des vers. Enfin, moi, j'ai vu des vers, hein.
Il y a eu des bactéries, donc on a exposé deux types de bactéries, donc des bactéries qu'on retrouve au niveau de la peau, donc dans le contexte de la thèse de Xavier, et puis des bactéries qu'on retrouve aussi au niveau vaginal dans le contexte de ma thèse. Et on a mis un petit outil aussi, c'est des nématodes, c'est des vers microscopiques qu'on peut voir bouger, donc c'est vivant, donc c'est ludique, c'est marrant, on se rend bien compte, on les voit très bien.
Moi j'imagine que les réactions des mômes doivent être impressionnantes là, quand on voit bouger, parce que les vers c'est impressionnant, enfin peut-être qu'ils ont un autre nom, hein, mais en tout cas le côté des vers, j'ai trouvé ça, en tant qu'adulte, impressionnant.
Ouais, la plupart du temps, c'est les deux premières réponses quand ils voient les vers, c'est « Ah, c'est dégoûtant !» Puis après, c'est « Oh, il y a des serpents !» C'est vraiment, ils s'éclatent en les regardant. Puis après, il y a les grandes personnes aussi. Quand ils regardent ça, ils se disent « Mais on a ça sur le corps, on a ça sur la peau. » Et on leur dit « Non, ceux-là, non. Ceux-là, c'est ceux qui sont dans le sol. Mais on peut avoir des choses presque similaires dans le corps humain et on ne le sait pas. »
Alors justement, la bactérie, on pourrait se dire c'est mauvais, faut s'en débarrasser. Ça peut être lié entre guillemets à de la saleté ou à des choses qui seraient nocives. On pense maladie quand on pense bactérie, on pense tout ça.
Absolument, c'est la première image qu'on en a et c'est tout à fait normal. Depuis l'existence de l'homme, il y a eu des millions, des milliards de morts dues aux bactéries. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, chaque être humain, on est composé d'à peu près 2 kilos de bactéries. 2 kilos de bactéries, c'est 40 000 milliards de bactéries qui sont présents à l'intégralité sur le corps, sur la peau, dans les oreilles, absolument partout. Et c'est pas pour autant qu'on est malade.
C'est une fonction ou pas d'avoir autant de bactéries sur soi? 2 kilos, c'est quand même beaucoup.
Oui, hein, bah justement, s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est dans l'estomac, ils vont nous aider à digérer. Sur la peau, ils vont faire en sorte qu'on ait une peau bien propre, bien lisse. Ils vont aussi tous, dans la globalité, avoir pour rôle défensif. Ils vont, c'est-à-dire, ça va être des petits soldats qui vont être là pour tuer les bactéries dans l'environnement qui peuvent être mauvaises. Ils vont venir se déposer ou arriver dans le corps et puis eux, ils vont les tuer. Ou les repousser, les empêcher de s'installer. Ils vont vraiment avoir un rôle primordial. Et aujourd'hui, si on ne les avait pas, ces 2 kilos de bactéries, on ne vivrait pas. C'est aussi simple que ça.
Et donc, c'est vraiment nécessaire au bon fonctionnement de notre vie, finalement, ces bactéries qui ont pourtant si mauvaise réputation. J'imagine que là, sur les idées reçues, vous êtes en plein dedans, quoi, sur la bactérie.
Oui, justement, dans les idées reçues, c'est vraiment la chose qu'on veut montrer. Donc, c'est vraiment ce côté bénéfique. Donc, par rapport aussi, c'est pas, vous avez vu de tout ce qui est boîte de pétri, etc., où on avait des cultures bactéries de tous les jours. En fait, qu'on voit jusque sur la langue, des mains après lavage, après des mains avant lavage, etc. Et en fait, on a toujours des bactéries. Donc, ce qu'on montre aux gens, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de ça, c'est qu'ils vraiment ils retrouvent des bactéries partout, qu'ils en ont toujours sur eux, etc. Et que vraiment, si elles sont là et que vous êtes pas malade, c'est que vraiment elles ont un rôle clé sur votre organisme et dans votre organisme.
C'est en fait, nous sommes un lieu d'habitat, alors, en tant que personne.
Oui, c'est ça, en fait, on permet aux bactéries, en fait, on leur offre un habitat, donc on leur offre de la chaleur, on leur offre de l'humidité, des nutriments, etc. Et puis en contrepartie, les bactéries vont pouvoir nous donner autre chose de bénéfique pour l'homme, comme par exemple, j'ai des exemples au niveau de l'intestin où il va y avoir des synthèses de vitamines, comme la vitamine K, par exemple, qui va être synthétisée par une bactérie. Et si vous n'avez pas cette bactérie, bah, vous n'avez pas la vitamine, et si vous n'avez pas la vitamine, bah, vous êtes moins bien. Tout simplement.
On est entièrement colonisé. On a colonisé sur la Terre, mais on est tout autant colonisé, voire plus.
Oui, c'est... Alors, du coup, c'est vrai que comme on le voit pas, on s'en préoccupe pas. Mais alors, du coup, il faudrait se préoccuper de notre bactérie qui nous habite. Enfin, des fois, quand on parle de recherche, et notamment en microbiologie, c'est aussi l'évolution de la médecine qui, avec des applications, on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, toutes ces recherches, tous ces résultats et ces conclusions pourraient se dire qu'un jour, on pourrait considérer aussi médicalement, pas soigner forcément, mais en tout cas équilibrer un peu, comme dans des médecines plus traditionnelles, notre équilibre bactérien pour aller mieux. On peut aller jusque-là ou pas dans la recherche?
Absolument. On le fait même déjà un peu. Je pense que tout le monde a déjà eu des antibiotiques, s'est retrouvé avec le ventre un peu chamboulé les jours après la prise d'antibiotiques. Et bien souvent, la première chose qu'il va faire, le médecin, c'est qu'il va nous donner ce qu'on appelle des probiotiques, des petits compléments qui vont être là pour booster, pour équilibrer cette flore microbienne dans l'estomac. Parce que justement, si derrière on avait des maux de ventre et tout après la prise d'antibiotiques, c'est justement parce que tout cet équilibre était entièrement perturbé.
C'est-à-dire que le médecin était en train de nous filer des bactéries à avaler?
Pas tout le temps. La plupart du temps, c'est surtout de la nourriture, en gros, entre guillemets, en vulgarisant. C'est il va donner quelque chose qui va stimuler pour relancer la flore déjà présente.
De la nourriture à bactéries, en fait.
On va parler de probiotiques, non? Ouais. On va avoir même des levures lyophilisées, etc. Donc, comme des marques qu'on n'a peut-être pas le droit de dire ici, mais enfin,
non.
Voilà. Des marques, et donc voilà, qu'on va vraiment prendre et que tout le monde sûrement vous avez pris, et c'est vraiment des micro-organismes lyophilisés que, une fois dans votre estomac ou dans votre intestin, vont reprendre vie et vont pouvoir recoloniser.
Ça veut dire qu'au bout d'un moment, des traitements médicaux, excusez-moi d'insister lourdement, mais je le découvre,
hein, non, pas de souci.
Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le médecin va nous prescrire soit des aliments pour bactéries, soit carrément de l'accélérateur de bactéries, quoi. Et nous, on pensait bêtement qu'on avait des trucs hyper élaborés, synthétiques, alors que non, pas du tout. Non. C'était de l'aliment à bactéries, quoi.
Non, même, je vais donner un autre exemple. En médecine, à l'heure d'aujourd'hui, une femme qui va avoir un enfant qui va pas pouvoir accoucher naturellement, c'est-à-dire qui va subir une césarienne, la première chose que l'on va faire lors de cette césarienne, c'est que les médecins vont prendre du coton, ils vont le frotter sur les muqueuses vaginales de la mère, et ils vont mettre ces cotons dans le nez du nourrisson. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce bébé-là, il n'est pas venu par voie naturelle, il n'a pas récupéré la flore bactérienne de la maman, et du coup, il se retrouve plus fragile dès la naissance. Et on met ses cotons imbibés des bactéries de la mère, juste pour renforcer tout de suite son microbiote et qu'il soit plus résistant pour commencer la vie, tout simplement.
Ça paraît tellement évident maintenant qu'on a parlé de bactéries et à quoi ça servait. Et en même temps, c'est des techniques qui nous paraissent tellement presque ancestrales, enfin presque, enfin d'un truc qui serait. Vous m'auriez dit que ça se faisait il y a 8 siècles, je vous disais oui, normal. C'est, non mais c'est. Ouais, et alors que c'est issu quand même de des pratiques d'aujourd'hui, contemporaines, quoi.
Oui, bah bien sûr, de toute façon, on utilise les micro-organismes depuis la nuit des temps, enfin, depuis qu'on sait faire des produits fermentés, etc., du fromage, de la bière, du vin, donc ils ont été utilisés avant de savoir même que c'était des micro-organismes. Donc tout est utile, tout le monde en croise, donc tout le monde en mange et tout le monde en a depuis, en côtoie tous les jours et depuis toujours.
Bon, bah voilà une idée un peu préconçue à laquelle on vient de tordre le cou. Vive la bactérie, j'ai envie de dire presque.
Absolument, c'est nos meilleurs amis.
Ouais.
Bah, maintenant que vous êtes passé par nos micros, ouais, on peut le considérer. Merci beaucoup à vous, de Maximilien et Xavier, d'être passé par nos micros. Je rappelle, vous êtes doctorant en microbiologie. Et là, vous êtes. En fait, ouais, les bactéries vous remercient, là, hein, pour le coup. Vous êtes en train d'être ambassadeur des bactéries auprès du grand public.
On leur fait de la bonne pub, ouais.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais.
Très bien.
Eh ben, merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros et puis de nous avoir éclairé sur toutes ces questions-là. Monsieur merci. Valjean, je vous invite. Non, monsieur Pignon, vous vouliez dire quelque chose avec ce joli micro bleu.
Vous voulez essayer ?
Non, vous vouliez dire un truc, pardon. Ah oui, vous vouliez lancer le reportage, exactement. Mais excusez-moi, oui, je reprends mes notes. Vous avez un reportage à lancer, très cher, effectivement.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette fête de la science, il y avait également, hormis tout ce qu'on peut retrouver ici sur l'université de Tilly, à côté du cinéma à Évreux, il y avait également notamment le site archéologique du vieil Évreux, Gizakoum, qui est associé à cette fête de la science. J'y ai tourné pas mal de choses. Et là, je vais vous proposer d'écouter l'archéologue Vincent Dartois, qui a consacré une partie de son travail et des animations proposées sur cette fête de la science autour de la question d'un four de réduction de minerais de fer. Je vous en dis pas davantage, on découvre donc Vincent Dartois.
Moi je travaille pour le pôle préventif, donc un des trois volets de la mission archéologique départementale. Donc nous on intervient sur tout le territoire départemental pour ce qui est de l'archéologie préventive, donc tout ce qu'on... toutes les procédures de diagnostic et le cas échéant de fouilles préalables à l'aménagement du territoire. Je suis spécialisé dans la période proto-historique, donc grosso modo 2500 à 0, à 2500 avant évidemment, et avec une sensibilité pour les arts du feu, donc j'étudie un petit peu la céramique et également la métallurgie, les métallurgies anciennes, puisque je continue à travailler sur la métallurgie du bronze et également un petit peu sur la métallurgie du fer. Et donc, ce qu'on va faire pour la fête de la science, c'est avec un double enjeu, en fait, un enjeu scientifique d'une part et un enjeu public d'autre part, un enjeu de médiation culturelle, où dans ce cadre-là, on va effectuer donc une expérimentation de réduction de minerais de fer selon les procédés anciens, donc du bas fourneau, qui sont les procédés en œuvre avant le 13e siècle, grosso modo, avant l'invention du haut fourneau. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé direct, où on va obtenir de façon relativement simple une masse de fer brut à partir de minerais. Donc là, on va être sur un modèle gaulois de la fin de la période qu'on appelle l'Athène. Donc on est aux alentours de entre 100 et 50 avant Jésus-Christ. Et en fait, on a effectué une fouille au printemps dernier sur la commune de Debouville, dans le nord du département, où on a trouvé justement un four de réduction. Et on se posait la question, suite à un certain nombre d'interventions sur cette commune-là, de la réductibilité de minerais, en tout cas de cailloux qui ressemblaient fortement à du minerai, qu'on trouve en quantité modeste sur place. On se demandait si c'était exploitable. On retrouvait pas mal de scories, de déchets de réduction. Et lors du dernier diagnostic et donc de la fouille, on est tombé sur un four de réduction où là il y avait absolument pas photo sur la nature de de la structure. Et l'idée, en fait, on a ramassé donc du minerai sur place. On a étudié un petit peu le four, bien évidemment. Et on a ramassé de l'argile, on a récolté de l'argile aussi sur place pour se mettre dans les mêmes conditions que là-bas, parce qu'on n'a pas forcément le même substrat là-bas qu'ici au Vieil-Évreux. À la base, on voulait faire cette expérimentation sur place, mais on n'a pas pu, faute de temps. Donc on met ça en œuvre ici, mais dans les conditions vraiment de là-bas, avec le minerai puis le four monté avec l'argile là-bas. Et donc on va mettre ça en œuvre à partir de demain. On va avoir une première phase donc de montage du four. Donc on va intégrer, alors c'est peut-être le seul élément qui sera pas d'époque, c'est on va mettre du foin pour ce qu'on appelle dégraisser un petit peu l'argile qui va servir au montage du four. Donc on va faire des petits pains d'argile qu'on va empiler pour faire une cheminée autour d'un petit trou qu'on aura creusé au préalable. Et puis on va ensuite cuire ce four pour qu'il se rigidifie, qu'il devienne un peu céramique. Et on va continuer ensuite à monter en température jusqu'à 1200-1300 degrés avec des charges successives de charbon et une alimentation en oxygène par le biais d'une tuyère qui vient s'insérer dans la paroi. Là, on va tricher un petit peu, on sera dans une alimentation forcée électrique en oxygène. Normalement, ça se fait avec des soufflets ou en ventilation naturelle, mais c'est beaucoup plus technique. Là, l'idée, c'est vraiment de tester le minerai, voir si on obtient vraiment du fer avec ce minerai-là. Donc ça, c'est un premier volet. Donc ensuite, samedi, on monte en température et puis on va commencer première réduction sans doute dans la nuit de samedi à dimanche. Il faut plusieurs heures pour tout ça, bien sûr. La cuisson du four, c'est 8 heures environ. Donc
déjà, c'est une journée.
C'est long. Le montage du four, c'est 8 heures, 8-10 heures aussi. Sachant qu'on va en monter deux, parce que le deuxième four sera un peu plus gros, parce que lui est plus destiné à la communication pour le grand public, là pour montrer le principe de la réduction en bas fourneau. Et on a un collègue qui va ramener du minerai industriel. Mais là, c'est pour montrer le principe au public et pouvoir mettre un peu des images sur des mots qu'on connaît plus ou moins dans notre horizon.
Alors pour décrire et puis voir si j'ai bien saisi aussi de quoi on parlait, mais vous êtes sympa, vous m'avez sorti un petit plan sous les yeux, mais vous l'avez évoqué, je reprends un peu cet élément là. À la base, on a un trou, une fosse sur laquelle on va monter une cheminée en argile, c'est ce dont on a parlé à l'instant. Donc ça, déjà rien que ça prend du temps à être monté puis ensuite à être cuit pour que ce soit solide. Évidemment, on peut là je vois sur le plan amener tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on, vous le disiez, si c'est du charbon qu'on brûle à la base du four, c'est les matériaux qui va brûler, c'est ça, le combustible.
C'est le combustible, voilà. On a le carburant, donc ça va être le charbon, et le comburant, l'oxygène, pour qu'on ait vraiment une combustion, une montée en température. Évidemment, on va faire une porte dans le four, mais qu'on va sceller pendant toute la durée de chauffe, qui permettra ensuite l'évacuation d'une partie des scories. Et donc les scories, ce sont tous les déchets en fait qui sont stériles, qui sont inutilisables, toute la partie siliceuse qui va se retrouver piégée. Ça a un aspect un petit peu métallique, parce qu'il y a toujours un petit peu de métal dedans, mais c'est inutilisable. C'est ce qu'on voit un petit peu sur le plan. Nous, c'est ce qu'on va retrouver, puisque lors de la dernière cuisson dans un four, il ne va rester, à moins qu'il l'ait évacué quand même, que la scorie de fond de four, donc le déchet, mais qui nous indique une structure particulière et qui nous indique bien que c'est une...
C'est pas intéressant,
quoi. Un four de réduction. Mais qui est pas intéressante en soi. La masse de fer brut va se former plus haut. Dans l'architecture.
Alors, quelle propriété justement scientifique, comment on explique que ce qui va être de l'ordre du déchet qui ne vous intéresse pas va tomber au fond?
Parce que c'est beaucoup plus fissible. On va passer là en fusion pour ce qui est des déchets, une température de fusion moindre, donc ça va couler pas forcément liquide, mais au moins à l'état beaucoup plus pâteux, et descendre dans le fond du four. Alors que le fer, sa température de fusion est à 1484 degrés, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais là, on va monter qui est entre 1200 et 1300 degrés. On n'est pas dans la fusion là du fer. Il va passer à l'état un peu mou, rouge, blanc, mais pas liquide. Et donc nous, on va avoir une masse, cette masse incandescente qu'on va venir récupérer à la fin en cassant la porte du four, évacuer les déchets et aller chercher la masse de fer sans se brûler, qu'on va ensuite mettre sur un bio et puis taper pour évacuer tous les derniers petits déchets qu'on va trouver dedans pour épurer cette masse de fer brut et pour éventuellement en former un lingot. Et donc c'est ces lingots qui ensuite sont exportés pour les forges environnantes.
C'est ça, c'est qu'à partir du moment où on a reformé ce lingot, enfin on a vraiment extrait que ce qu'on voulait de la matière ferreuse, c'est comme ça qu'on dit. Désolé, moi je suis pas spécialiste du domaine. Ça nécessite évidemment qu'on le rechauffe
on le rechauffe en permanence
à une température encore supérieure pour pouvoir le forger, manipuler comme on le souhaite.
Ça va être en permanence réchauffé, ne serait-ce que pour l'épuration, juste après la sortie de la réduction. On va le rechauffer à plusieurs reprises pour le garder en température, battre le fer tant qu'il est chaud, pour pouvoir continuer à le mettre en forme et en tout cas au moins l'épurer. Et voilà, donc ça c'est une activité qui est a priori toujours pratiquée sur les sites où l'on trouve du minerai. Il peut y avoir de la forge sur ces sites-là, mais ensuite, généralement, la matière première est ensuite exportée. On ne transporte jamais du minerai, très rarement. Et c'est lourd. Et il y a une phase de préparation qu'on a déjà faite il y a quelques jours déjà. C'est la préparation du minerai qui ressemble à des... Ça ressemble un petit peu à ça.
Alors est-ce que ça a un nom particulier, ce minerai? Est-ce que voilà
En l'occurrence, on ne sait pas encore ce que c'est. Il faudra qu'on fasse des analyses dessus. On va garder des échantillons bruts. Ce minerai, on va le passer au feu pour le fragiliser et surtout le débarrasser de toute son eau. Ce qu'on dirait pas, mais c'est plein d'eau. Là, par exemple, le minerai qu'on a ramené, on en avait 13 kilos. Après le grillage, on n'a plus que 10 kilos. On a perdu quasiment 3 kilos en eau et en gaz d'hiver. Et ensuite, ce minerai, on va le concasser. Il va s'aimanter en passant au four et devenir extrêmement fragile aussi. Et donc, on va là avec une petite massette. C'est très facile. Ça devient très friable. On va le casser et en faire du gros sel. Et c'est ça qu'on va introduire par couches successives avec le charbon par la cheminée du four.
Où est-ce qu'on le retrouve, ce minerai là? C'est des choses qui viennent du coin là, si je comprends bien.
Ouais, là on est sur Eudebouville, on est c'est assez étonnant, mais on est dans un contexte de plateau, juste au-dessus de la vallée de la Seine, au niveau du péage d'Eudebouville. Est-ce qu'on est sur des terrains assez anciens? On n'est pas dans les terrains tellement limoneux comme on peut en trouver généralement sur les grands plateaux là de l'heure. C'est quand même assez rare d'en trouver dans ces contextes-là. On en a beaucoup plus dans le nord là de la Seine-Maritime, du côté de Forges-les-Eaux, comme son nom l'indique. C'est un coin métal depuis très très longtemps, où là on en retrouve en quantité et en qualité assez importante.
Et sur et ce sera peut-être là ma dernière question, sur la composition de ce minerai, qu'est-ce qu'on retrouve? On cherche du fer, évidemment, c'est tout le principe qu'on vient d'expliquer à l'instant, mais qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme matériel?
Il y a du soufre, il y a de la silice, éventuellement des carbonates, et c'est un peu toute cette soupe qu'on va qu'on va retrouver ensuite dans la scorie, toujours associée avec un petit peu de fer. Et puis après, je vous passe toutes les formules chimiques de passage d'un état à l'autre.
Ce que vous disiez à l'instant, juste avant, c'est ce minerai-là qui est un peu typique du coin de Doubouville, notamment, et bon, d'autres endroits. Mais voilà, ce minerai-là, on va pas forcément, ce sera pas le même qu'on retrouvera ailleurs.
Non, ce sera pas typique. Il y a des classes de minerais, des familles de minerais, mais chaque minerai, après, selon la géographie, a une composition bien particulière. Là, ici, on n'a pas de grandes attentes, c'est vraiment juste pour répondre à la question, est-ce qu'il est réductible ou pas? A priori, oui, puisqu'on a trouvé un four de réduction. Mais voilà, on veut voir et puis pouvoir comparer les données de l'expérimentation aux données de la fouille pour voir, comparer un petit peu les données. Je sais plus ce que je voulais dire.
En tout cas, c'est tout l'intérêt de ce qui va se passer ce week-end dans le cadre de la fête de la science, c'est de comparer. Voilà, on a retrouvé un four en l'occurrence sur Debouville. Voyons si en effet, en reprenant du minerai qu'on pouvait trouver sur cet endroit-là, refaisons l'expérience pour vérifier qu'en effet, on pouvait forger derrière et pourquoi pas faire une épée ou je ne sais quoi en fait.
Voilà, ou de la petite forge d'appoint, parce que là, clairement, on n'est pas sur de la grosse production dans tous les cas.
Bon, je ferai pas mon épée.
C'est pas un gros site de production. Mm-hmm. On aurait des traces beaucoup plus importantes. Ouais. On aurait des ferriers, notamment des montagnes de déchets, donc des montagnes de scories, si c'était un gros site de production et d'exportation à l'époque. Là, c'est opportuniste. Il y a des chances sur ce site-là, mais c'est déjà une donnée assez importante, parce que ça peut aussi permettre de se poser la question et de faire des découvertes dans des endroits insoupçonnés ailleurs dans le département, dans des contextes similaires. Voilà.
Vincent Dartois, archéologue en mission départementale sur le site de Gisacum, qui est au micro.
Pardon, non, c'est moi. Actif.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose, c'est la radio culturelle qui donne à penser, qui donne à réfléchir.
Le mix des cultures.
Vous avez vu, donc je voulais dire au micro de Monsieur Pignon, et effectivement mon doigt est parti trop vite parce qu'en radio on se fait des signes avec les doigts pour envoyer les enregistrements, les pastilles, les jingles, et mon doigt est parti très très vite et la machine a été d'une réactivité d'exception. Elle a envoyé le jingle, c'est très bien comme ça. Vinci, vous êtes venu avec un invité, vous?
Je suis venu avec Bruno de la ferme de Navarre, ferme pédagogique. Alors aujourd'hui vous tenez un stand au niveau du céréal, plus précisément du blé. Donc vous allez nous expliquer au niveau plusieurs affiches, plusieurs jeux, comment on peut passer du blé au pain.
Ouais, tout à fait. On a essayé de mettre en place à la ferme municipale de Navarre différents thèmes, et entre autres aujourd'hui à la fête de la science, on a mis en place des petites expositions didactiques, mais qu'on essaie de faire vivre par l'animation. Donc on va transformer du blé en farine. Alors on en a fait un petit peu, je pense, jeudi, vendredi, samedi. Moi aujourd'hui j'ai fait autre chose, j'ai travaillé plutôt sur les céréales, les différentes céréales, les différentes étapes culturelles et la mise en place sur l'année des différentes étapes culturelles, c'est ce que j'ai dit juste avant, avec les méthodes actuelles.
Alors vous avez 4 étapes exactement au niveau de la transformation du blé?
Oui, on a 4 étapes, les grandes étapes. Hein. On a d'abord le travail avec les enfants d'un tri de différentes graines. Il n'y a pas que des céréales, on a plein de graines différentes. On va les trier par couleur, par forme et par grosseur pour arriver à la fin sur les différentes céréales, donc 8 céréales. Sur ces 8 céréales, on va en choisir une qui est le blé. Ce blé, on va le transformer avec les enfants sur des différentes stades, c'est-à-dire avec des marteaux, avec des moulins à café anciens, électriques, et à la fin quand même avec des moulins à main pour transformer le blé en farine. Cette farine sera ensuite utilisée pour faire de la pâte à pain et de la pâte à pizza pour la dernière séance, sur 4 séances en tout. Et on partagera ensemble ce pain et la pizza qui sera faite sur ce pique-nique.
C'est génial. Vous parlez aussi des engins agricoles.
Bon, alors les engins agricoles, on a des maquettes en fait. On a des jouets qui sont assez sympas. Tracteurs, moissonneuses-batteuses... On a des rondballeurs, charrues, et on essaie de les mettre dans le bon sens, dans les bonnes étapes, pour montrer un petit peu quelles sont, dans la vie agricole, le travail de l'agriculteur céréalier.
Très bien. Alors là, aujourd'hui, vous présentez le blé, on l'a dit, mais vous ne faites pas que ça à la ferme de Navarre. Vous avez des animaux, vous avez...
Oui, il y a une grosse volonté, en fait. C'est une volonté municipale depuis quelques années. Maintenant, ça va faire près de plus de 20 ans, où il y a un choix de travailler sur l'environnement et sur des thèmes aussi différents les uns que les autres. La mare et la rivière, la découverte, la faune et la flore aquatique. Ça peut être sur la forêt, avec les différentes saisons, les quatre saisons, avec tout ce que ça comporte, faune, flore... Les déchets en contact avec le CETUM, entre autres. On travaille aussi avec la MED dans certains cas. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les jardins à l'école, les différents états de l'eau, quoi. Tous les thèmes environnementaux qu'on nous propose, qu'on nous proposons et qu'on peut nous proposer.
Il y a un lien assez évident, du coup, entre l'approche scientifique, la nature et notre environnement, qui fait justement ce lien, notamment à la ferme pédagogique de Navarre. Mais il y a un lien assez évident, du coup, entre la science, finalement, et puis cette dimension un peu écologique.
Tout à fait.
C'est ce que vous passez aussi à travers la vie, j'imagine.
Ouais, tout à fait. On essaie de le faire passer. En tout cas, on essaye. Alors, c'est pas toujours facile de faire comprendre les choses, mais on est dans le savoir-faire et le savoir-être et savoir-faire-faire. Donc avec les enfants, on est sur le terrain. On n'est pas sur la télé, on est sur du réel. On travaille vraiment sur la forêt, qu'il neige, qu'il pleuve, on est quand même dehors avec eux. On est dans l'observation. Hein. On n'est plus dans les. On entend plus ce qu'on est dit. On est plutôt dans l'écoute. On n'est pas dans le regard. On est dans l'observation. C'est vraiment un travail de fond.
Mais c'est une démarche, oui, scientifique finalement.
Tout à fait, c'est une démarche scientifique.
Des fois, on pourrait se dire, bon, bah, la science, c'est dans les labos, et puis la nature, c'est un truc terroir, de pratique. Mais en fait, il y a vraiment une passerelle entre les deux.
Tout à fait, tout à fait. Nous, on essaye de vraiment travailler comme ça. C'est pas toujours facile, surtout qu'on travaille avec les maternelles jusqu'en CM2. Donc, faut adapter son vocabulaire, faut adapter les lecteurs, les non-lecteurs. Bon, mais on y arrive, à force de travailler avec eux, on finit par y arriver quand même.
Il y a des choses qui nous paraîtraient tellement évidentes et pour avoir déjà visité la ferme pédagogique de Navarre, pour vous avoir déjà croisé sur des espaces, il y a des trucs où aujourd'hui on se dit bah ouais, le blé, le pain, et puis c'est normal quoi. Des fois, certains enfants ne se sont pas posé cette question de quoi était fait le pain. Est-ce qu'un arbre à pain existe ? Est-ce que...
Alors l'arbre à pain existe. Que...
L'arbre à pain existe, coups, oui. Tout à fait. L'arbre à pain donc, existe, mais il ne produit pas des baguettes et des pains.
Non, ça serait... Non, je pense qu'à... On a une grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est pas dans la représentation de ce qui nous entoure, et on est plutôt dans le virtuel. Et malheureusement, nous, on est obligé de reprendre un petit peu tout, pas à zéro, mais on fait un travail de fond qui est important, je pense, à l'heure actuelle.
C'est parce que c'est un truc tout bête, mais le pain, bon, c'est un aliment de base qu'on connaît tous, qu'on consomme tous, enfin tous, globalement,
beaucoup
on consomme en tout cas. Et puis finalement, quand on demande à des enfants, mais c'est quoi la recette du pain ?
Ah bah il y a du lait dedans, il y a des œufs dedans,
ouais, voilà.
Il y a du sel dedans.
Pour le coup, il y en a du sel.
Du sel, il y en a aussi, oui. Du sucre. Non, donc on explique vraiment basiquement, et on le fait. En fait, voilà, c'est ça. Je crois que l'important à la ferme, c'est qu'on fait faire. On fait faire pour tout. Je veux dire, si on est sur les animaux, si on est sur les végétaux, on fait des expériences, les différents besoins d'une plante, et on fait. Je crois que c'est le côté important de notre travail.
Et puis c'est assez proche finalement de la démarche de recherche. Tout à l'heure, on a eu des chercheurs. Finalement, ils fonctionnent pareil. Ils observent,
voilà.
ils expérimentent et ils concluent en fonction de ce qu'ils ont trouvé.
Tout à fait.
Finalement, c'est la même démarche que vous avez à la ferme de Navarre, qui est finalement la démarche des découvreurs.
Oui, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et puis bon, c'est vrai qu'on a la chance, quand même par rapport à la France, d'être une des rares fermes pédagogiques municipales avec une gratuité de tout ce qu'on fait sur la structure.
Ah, et vous savez bien, Vinci, hein, quand c'est gratuit.
C'est dans nos prix, toujours.
c'est ce qu'on dit.
Non, mais bon, c'est un accès pédagogique et facile,
D'accès.
Facile d'accès. Enfin, c'est à côté de l'hippodrome de Navarre.
Tout à fait.
L'hippodrome étant lui-même à côté de la ferme de Navarre. Toujours dans quel sens on regarde. Hein, mais c'est
le parc de loisirs.
Le parc aussi. De loisirs. Voilà.
J'aime bien le parc de loisirs.
Exactement, et ça permet aussi de se rapprocher des animaux, et mine de rien, c'est pas si évident que ça, quand on vit en ville, d'être au contact des animaux. Quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de ferme pédagogique municipale, c'est vrai que c'est surtout les animaux pour les maternelles. Et c'est vrai qu'une vache, ça donne pas toujours du lait. Et puis les produits laitiers, bah, quand on sait qu'avec du lait, on fait de la crème, avec la crème, on fait du beurre. Oula, c'est un réel questionnement quand même.
De là à dire qu'on pourrait en faire du fromage, il n'y a pas loin.
Et oui, et peut-être des yaourts. C'est une folie.
C'est un truc de fou.
Et ça, c'est vrai que ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'apprend en faisant. Donc on fait aussi du beurre.
Très bien. Si vous faites du beurre, en plus, tout va bien.
Après avoir fait du blé.
Exactement.
Voilà.
Eh ben merci beaucoup Bruno d'être passé par nos micros. Je rappelle, vous êtes à la ferme municipale de Navarre, ferme pédagogique.
Tout à fait.
Où bien entendu, bah, les visiteurs sont attendus en permanence et sont les bienvenus.
Toute l'année.
Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup.
De rien. Merci à toute l'équipe.
Bruno, d'être passé par nos micros. Nous, ça nous emmène, Vinci, à la conclusion de cette émission, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et nous étions durant ces deux jours en direct, en live et en public du centre universitaire Tilly. Vous pouvez encore nous rejoindre, hein, il n'est pas trop tard, c'est ouvert jusqu'à 18h. Et il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre, expérimenter. Vous l'aurez compris, il y a plein de manipulations à faire, plein d'expérimentations à faire, des rencontres également à faire, des échanges, des discussions avec des chercheurs, des doctorants qui pourraient nous paraître impressionnants comme ça. Puis une fois qu'on les a eu au micro, finalement, elles sont des humains ordinaires aussi.
Comme nous.
Et on peut leur parler de bactéries, on peut leur parler de mesures, on peut leur parler de tout un tas de choses. Et finalement, on comprend, on se rend compte qu'on comprend.
C'est ludique, c'est pour tout le monde, pour les grands et les petits.
Exactement. À la radio propulsion de cette émission, vous pourrez retrouver en podcast très rapidement si vous n'avez pas tout suivi. Vous retrouverez les deux émissions en podcast et également le reportage issu des visites scolaires. Donc à la radio propulsion de cette émission, c'était encore une équipe de choc.
Oui, alors on retrouve vous, JC, au micro, ainsi que Thomas à la technique et notre ami Timothée à la recherche de nos intervenants en plateau.
C'est ça, et à la question existentielle aujourd'hui, c'était l'ami Vinci. Restez à l'écoute de nos programmes ce soir, c'est ça y est, je suis en train de chercher le nom, c'est terrible, hein, c'est Saveur Jamaïcaine que nous retrouverons dans quelques temps. Allez, nous on va continuer à faire des expériences parce qu'on n'a pas tout fait, hein, Vinci. Hein.
Non, faut qu'on y aille, qu'on se dépêche.
Bah exactement, il y a les boîtes là. Les boîtes mystères. Ouais, voilà. Bah, allez-y, filez à la boîte mystère. Moi, je m'occupe de la chèvre de levage ou d'aller observer dans le microscope ce que j'ai pas vu tout à l'heure. Et puis on fait le point à la fin. Allez, en tout cas, vous venez nous rejoindre. Venez aussi mettre les mains dans les boîtes mystères. Venez mettre vos yeux dans les microscopes. Venez mettre vos pieds je ne sais où. En tout cas, venez vous promener sur cette fête de la science.
Fête de la Science 2018 vous invite du 12 au 14 octobre à venir découvrir les villages d'Évreux, d'Elbeuf et de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Et cette année, on va parler d'idées reçues.
Au programme, des démonstrations, des ateliers de manipulation, des expériences à réaliser, mais aussi des rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, des conférences et des débats.
Pour les plus jeunes ou les plus anciens, rejoignez-nous dans les villages de la science d'Évreux, d'Elbeuf et de Saint-Étienne-du-Rouvray du 12 au 14 octobre. Entrée gratuite.
Plus d'infos sur ecoscience-normandie.fr.